France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Saez.
Bonsoir Tanguy Bakang.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Nous allons parler cinéma, vidéo en Afrique, mais pas que. Et on va parler aussi, et c'est ça qui est précieux, je vous remercie d'être là, d'une forme d'échec, parce que vous êtes lancé dans une entreprise entrepreneuriale qui n'a pas fonctionné, mais qui est riche en enseignements. Et ça, c'est chouette, parce qu'on le sait, le monde de l'entreprise est très dur. Dans les startups et dans les projets qui sont plus gros que les startups, il y a un taux d'échec. Et souvent, on apprend de nos erreurs. On dit souvent que la France a du mal à accepter ça, mais je pense qu'en effet, c'est bien de pouvoir en parler. Vous êtes donc entrepreneur. Vous avez été à l'origine, vous travaillez essentiellement dans l'entreprise, dans l'industrie du divertissement depuis vos débuts. Je crois que vous êtes à l'origine de ce qui est devenu ensuite le Jamel Comedy Club.
Tout à fait.
Dans un premier temps. Et vous avez lancé ce projet AfroStream qui a commencé, je crois, en 2016 officiellement et qui s'est terminé l'année dernière en 2017. C'était quoi AfroStream? C'était quoi votre envie? C'était quoi le pari à la base?
Alors AfroStream était un projet qui avait l'ambition de diffuser du contenu africain et afro-américain auprès de la diaspora et du public africain. J'ai commencé cette aventure en 2013 pour qu'elle se concrétise finalement en septembre 2015. Alors, tous les projets semblent très simples une fois qu'ils sont lancés, mais ça a demandé beaucoup de ressources et beaucoup de recherches parce que il y a une forte production de contenu audiovisuel africain dans des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire,
Nollywood, vous connaissez bien, à Lagos,
mais aucun moyen de diffusion et de monétisation pour ce contenu. Donc l'ambition était à la fois purement business, de divertir un public en demande de ce contenu. Un public large, parce qu'il faut savoir que comme le cinéma asiatique ou indien est vu un peu partout dans le monde, pour moi il me semblait nécessaire d'avoir une plateforme comme ça qui allait accompagner l'essor du cinéma africain. Effectivement, cette aventure s'est arrêtée de façon prématurée. Nous avons dû fermer le service en décembre 2017, il y a un peu plus d'un an, parce que quand vous lancez un média avec une ambition internationale, il faut des dizaines de millions d'euros. Et malgré des levées de fonds à succès avec mon équipe, on n'a pas pu avoir les capacités financières nécessaires.
Alors justement, parce que ça vous l'avez dit, vous avez publié une lettre ouverte d'ailleurs au moment où vous avez finalement décidé de fermer ce service.
Très important de partager les succès, mais aussi de tirer les leçons de ces enseignements et les partager avec d'autres aspirants entrepreneurs.
Et justement, c'était quoi cet abonnement? C'était quoi le pari? Vous vous êtes dit, on est sur du streaming. Les contenus que vous proposiez, c'était quoi? Je crois que l'abonnement, c'était 6,99€, c'est ça?
Voilà. L'idée, c'était d'être dans les prix du marché. Mmh. Un abonnement mensuel à moins de 10€ qui donnait un accès illimité à des films, des séries, des documentaires. Et même, on s'est tenté au podcast. L'important, c'était d'être la porte d'entrée sur une culture très riche africaine.
Donc vous l'avez dit, il y a effectivement vous avez eu ces problèmes budgétaires, c'est-à-dire qu'en fait il aurait fallu avoir des investisseurs qui étaient prêts à perdre de l'argent pendant 3-4 ans.
Et on a eu la chance d'avoir de beaux investisseurs. Il y avait les studios américains Warner, M6 nous a accompagnés, Orange, mais alors que je suis vraiment très reconnaissant de leur soutien, c'est vrai que sur la question de l'Afrique, il y avait une peur peut-être plus marquée de perdre de l'argent sur ce marché-là, puisque c'est vrai que c'est encore un marché qui est incertain, alors que aucun média...
Alors qu'il serait capable d'investir, même à perte, pendant plusieurs mois, par exemple sur un continent européen où il faut prendre des positions parce qu'ils le connaissent bien.
Disney, par exemple, qui lance son service de streaming à la fin de l'année, a déjà annoncé qu'ils ont perdu 1 milliard de dollars alors que le service n'est pas encore lancé.
Et justement, vous le dites, en Afrique, en fait, souvent, vous avez l'impression qu'il y a une volonté ou il y a une tentation, disons, pour les gens qui s'intéressent à ce marché, de finalement essayer d'être rentable le plus vite possible, c'est-à-dire pouvoir inonder un nouveau public qui est anglophone souvent à l'Est et francophone souvent à l'Ouest. Et ça, c'est une approche qui fonctionne pas.
Elle n'a jamais fonctionné, puisqu'ils voient l'Afrique comme une terre d'expansion où ils vont pouvoir finalement prendre le contenu qu'ils ont produit en Europe ou ailleurs et juste le diffuser, le balancer. Mmh. Aujourd'hui, on est...
Capitalisé sur un catalogue, quoi.
Tout à fait. On est sur un continent africain qui se réveille et de plus en plus fier de ses origines, de ses créations et qui veut finalement se reconnaître. C'est pas par hasard que les réseaux sociaux cartonnent dans les pays africains parce que sur ces plateformes-là, les gens peuvent communiquer leur culture. C'est un miroir finalement de leur société, et c'est ce que les Africains veulent voir comme série, comme film. Donc aujourd'hui, quand les grands groupes français se lancent en Afrique, elles doivent produire du contenu localement, elles doivent aller à la rencontre de ces compteurs et leur laisser une plateforme d'expression.
Mais alors justement, qui sont aujourd'hui les gens qui étaient vos concurrents à l'époque ? Alors évidemment, il y a plusieurs questions. D'abord, est-ce que l'Afrique a aujourd'hui les capacités ? Est-ce qu'il y a un marché suffisant pour le stream avec ce modèle ? Vous l'avez dit, 6,99€, c'est quand même un prix important. Effectivement, on peut imaginer que la diaspora est capable de s'offrir, mais il y a aussi un problème de connectivité très idiot sur ce continent, qui fait que, pour le moment, le streaming vidéo n'est peut-être pas le meilleur moyen de consommer de la vidéo et du divertissement.
Tout à fait. Quand on parle d'Afrique, il faut vraiment prendre le temps de parler de pays. Et même quand parle de pays, ce n'est pas suffisant, il faut parler de ville. Donc quand on parle de capitale économique comme Lagos au Nigeria, Abidjan en Côte d'Ivoire, dans ces villes-là, il y a un potentiel de connectivité. Ce qui est prohibitif pour des utilisateurs potentiels, c'est finalement le coût d'accès à cette capacité d'Internet. Et il est vrai que un abonnement illimité en Côte d'Ivoire coûte beaucoup plus cher que ce que nous pouvons avoir en France. Donc il y a un travail à faire avec des entreprises comme Orange et autres qui sont installées en Afrique, qui dominent le marché. Je pense que, vous l'avez très bien dit, 6,99€, c'est un budget important pour une famille, et la priorité n'est pas nécessairement d'utiliser cet argent pour du divertissement. Ça devient finalement important quand la proposition de valeur de cette plateforme est de diffuser des histoires inédites, locales, très fortes. Moi, je rêve de pouvoir donner accès à des histoires autour de Sankara et d'autres leaders africains qui finalement font rêver et qui sont emblématiques.
Parce qu'effectivement, c'est la stratégie que vous avez fait. En gros, être un petit pousset du streaming qui essaie de s'imposer tout seul, vous en avez fait l'expérience, que ce soit sur ce continent ou même dans d'autres, on l'a bien vu, y compris en France, c'est compliqué. Là, vous changez de stratégie. Maintenant, vous allez proposer des contenus à des acteurs qui sont déjà existants là-bas, notamment, et vous l'avez dit, peut-être une grande fresque autour de Sankara. Cara figure ô combien symboliquement forte et culturellement fertile, ça on imagine. C'est qui ces acteurs aujourd'hui ? On parle évidemment de Canal Plus Afrique, qui est très présent quand on va par exemple dans les rues de Dakar ou à Abidjan. Il y a aussi Iroko TV. Qui sont ces acteurs ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'on parle plutôt de plateformes, ou est-ce qu'on parle vraiment de chaînes de télévision ? Parce que c'est encore ça.
Alors les grands concurrents aujourd'hui sur le marché, quand on parle de contenu africain...
Et ceux qui financent aussi la création ?
...sont Iroko, parce que le modèle d'Iroko est très intéressant.
Ils ont Iroko bien sûr... TV, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est ?
Donc Iroko TV est une plateforme de streaming dédiée au contenu de Nollywood, donc le contenu principalement produit au Nigeria. Leur modèle est très intéressant, puisqu'ils ont aussi créé un studio de création qui s'appelle Rock Studio. Et comme la diffusion du contenu en ligne sur Iroko avait une croissance plutôt limitée, ils se sont aussi lancés dans la télévision à péage, ce qu'on appelle la pay TV dans le jargon, et en lançant trois chaînes, Rock 1, Rock 2, Rock 3. Et c'est sur un business model où l'opérateur qui crée justement ces chaînes-là, l'opérateur satellite, et le client, c'est lui qui achète la chaîne, donc il peut acheter la diffusion du contenu pour un an ou pour plusieurs dizaines de millions de dollars, et Iroko produit le contenu et diffuse la chaîne. Donc c'est un modèle, inédit et très intéressant. Pour revenir au cœur de votre question, aujourd'hui les grands acteurs sont bien sûr Netflix.
Ils sont présents où, Netflix, aujourd'hui ?
Ils sont présents aujourd'hui au Nigeria, en Afrique du Sud. Ils ont annoncé qu'ils allaient lancer des productions originales. La première qui est publique, publiquement annoncée, c'est celle qui sera produite en Afrique du Sud. Mais très prochainement, ils vont annoncer des choses au Nigeria, au Ghana et dans un second temps, en Afrique francophone. La force... Oui. D'un acteur comme Netflix, c'est de comprendre qu'il faut absolument proposer du contenu original.
Et du contenu local, c'est ça ?
Du contenu original, local, et qui s'adresse à une population qui est assez jeune. Vous avez parlé tout à l'heure de Canal Plus Afrique. Canal Plus Afrique a vraiment amélioré sa stratégie en Afrique en investissant déjà plus dans le contenu. On part de budgets très très faibles aux alentours de 20 000 euros à maintenant plusieurs centaines de milliers d'euros par épisode. En moyenne, j'aime pas trop parler de chiffres, mais je pense que c'est important d'avoir une ordre d'idée. quand vous voyez une série qui vous plaît, en général, un épisode a coûté environ 1 million d'euros.
Il y avait un manque d'ambition et là-dessus, ils sont en train de se corriger. Une dernière petite question, justement. Vous l'avez dit, là, on a parlé Netflix qui a visé tout de suite des pays anglophones en Afrique. Il y a un terreau assez fertile aussi en Afrique qu'on appelle francophone, même si là aussi, c'est très large. Notamment, vous l'avez dit, Abidjan, la Côte d'Ivoire, Dakar au Sénégal. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas plus, justement, ces créations aujourd'hui?
On ne les voit pas plus parce que... Aujourd'hui, on considère ces marchés comme des marchés trop petits, des marchés d'une dizaine, d'une vingtaine de millions d'habitants. Et si vous regardez sur des plateformes de partage comme YouTube, par exemple, là, vous voyez que ces vidéos sont vues des centaines de millions de fois.
Il y a un temps d'engagement très fort.
Tout à fait.
Sur une série en Wolof que tout le pays aura vue, mais comme elle est qu'en Wolof, seulement le pays l'aura vue. Mais elle existe, cette création, et elle est vivace.
Elle existe, elle est riche, la diaspora la consomme et commence à partager. En France, nous avons aussi des chaînes disponibles sur le câble qui diffusent de la série africaine.
Merci beaucoup, Tondré Bakang. On va suivre évidemment la suite de vos aventures et évidemment l'évolution de la stratégie d'acteurs comme évidemment Netflix et Amazon dans les prochains mois. Il y a beaucoup, beaucoup d'annonces sur ce continent africain qui excite toutes les envies. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci beaucoup.